réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les frères Kouachi, auteurs de la tuerie de Charlie Hebdo, s'étaient réclamés d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Son chef a été tué par les Américains. La Maison Blanche l'annonçait cette nuit. Nous y reviendrons dans un instant.
Angela Merkel rejette toute alliance avec l'extrême droite allemande après l'élection d'un candidat à Thuringe. Grâce au soutien de l'AFD, il a démissionné 24 heures plus tard. Mais la crise politique s'annonce profonde, vous l'entendrez.
Nous irons ensuite en Chine, où le médecin qui avait alerté sur l'épidémie du coronavirus est décédé hier. Cela déclenche la colère de nombreux internautes chinois qui voient en lui un héros national.
Le gouvernement français dévoile le nom de 7 entreprises soupçonnées de discrimination à l'embauche, leur nom et les réactions à suivre.
Et puis dans un gros quart d'heure, Frédéric Seil se demandera jusqu'où iront les écologistes dans son billet politique. Il s'appelait Qassem Al-Rimi. Il était le chef de l'ACPA, Al-Qaïda, dans la péninsule arabique. Selon les États-Unis, Qassem Al-Rimi a été tué lors d'une opération antiterroriste américaine au Yémen. C'est le président Donald Trump qui en a donné l'ordre et qui se félicite de sa mort dans un communiqué. Selon l'exécutif américain, Al-Rimi avait notamment travaillé en Afghanistan pour Oussama Ben Laden, Aurélien Colli.
Qassem Al-Rimi avait rejoint Al-Qaïda dans les années 90, un de ses fondateurs, aux côtés d'Oussama Ben Laden en Afghanistan. Il avait pris la tête de la branche de la péninsule arabique en 2015, après la mort d'un précédent chef, tué déjà au Yémen par une frappe de drone américain. Sous l'impulsion de Qassem Al-Rimi, Al-Qaïda dans la péninsule arabique avait renforcé son emprise dans le sud et le sud-est du Yémen, ravagé par la guerre depuis mars 2015. Washington avait même doublé la récompense offerte pour sa capture, montée à 10 millions de dollars. Sa mort affaiblit davantage Al-Qaïda et nous rapproche de l'élimination des menaces posées par ces groupes, a indiqué la nuit dernière la Maison Blanche en annonçant sa mort. Sous sa direction, Al-Qaïda a perpétré des violences inqualifiables contre des civils au Yémen et cherchait à perpétrer ou inspirer de nombreuses attaques contre les États-Unis, ajoute encore le texte. En décembre dernier, dans un message audio de son chef, Qassem Al-Rimi, l'organisation avait revendiqué la fusillade sur une base militaire en Floride qui a fait 3 morts, 3 marins américains. En France, les frères Kouachi, auteur de la tuerie de Charlie Hebdo à Paris en janvier 2015, s'était aussi réclamé d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique.
C'est un scénario qui a déjà été vu. Ce matin, cela ne s'est pas passé en Iran, mais en Syrie. Des missiles ont visé, par erreur, un avion commercial, un Airbus 320 avec 172 personnes à bord. Cette fois, heureusement, l'avion a pu atterrir en urgence sur la base aérienne syrienne de Kemin, sur la côte ouest, au sud de Latakia, en Syrie. Les tirs de missiles avaient été déclenchés par un raid israélien près de la capitale, Damas. Un an avant le procès de 5 hommes accusés d'avoir planifié les attentats du 11 septembre aux États-Unis, les audiences préliminaires ont commencé à New York. Parmi les témoins, un psychologue qui fut employé par la CIA en 2001 a justifié l'usage de la torture à Guantanamo. Un devoir moral selon lui pour prévenir toute nouvelle attaque. Guantanamo justement, que Barack Obama avait promis de fermer, que l'administration Trump veut garder ouverte pour les 20 ou 30 prochaines années encore. En 18 ans de fonctionnement, elle a déjà coûté 6 milliards de dollars aux contribuables américains, comme le souligne Carol Rosenberg, journaliste au New York Times et spécialiste de cette prison à Guantanamo.
Cette étude que nous avons trouvée révèle que cette prison coûte 13 millions de dollars par an et par prisonnier. Il n'y a plus que 40 détenus, donc le coût de tout ceci est évidemment beaucoup plus important quand il y a peu de prisonniers. Il y a ici 1 800 soldats et 300 employés privés qui font fonctionner la prison. Nous savons que le séjour ici d'un militaire revient à peu près à 100 000 dollars. Et il y a pour ces gardiens une rotation tous les 9 mois. Ce n'est pas du personnel permanent. Et évidemment, ça coûte très cher de faire ça. Et puis Guantanamo coûte cher parce qu'ils ont choisi Guantanamo. C'est loin de tout, isolé. Au total, la base compte 6 000 habitants. C'est comme une petite ville. Il y a zéro relation avec Cuba. Ils ne peuvent absolument rien acheter là-bas à cause de l'embargo politique et économique. Tout ce qui arrive ici coûte cher. La moindre chose que vous mangez est arrivée réfrigérée via un porte-container ou par un avion frigorifique qui atterrit ici chaque semaine.
Des propos recueillis par notre correspondant à Washington, Grégory Phillips, qui a pu d'ailleurs passer 5 jours à Guantanamo. Pour le grand reportage de France Culture, il a assisté notamment à des commissions militaires, des rencontres avec les avocats qui défendent les détenus sur place. Son reportage sur cette justice d'exception sera diffusé ce soir sur France Culture à partir de 17h. Il est réalisé grâce à Annie Brault et sera suivi d'une discussion animée par Aurélie Kiefer autour de Mourad Benchelali, ancien détenu de Guantanamo. Les États-Unis encore et ce résultat qui tombe avec beaucoup de retard. Pete Buttigieg a battu de peu Bernie Sanders lors des caucus de l'Iowa en début de semaine. Des caucus qui avaient tourné au chaos à cause d'un bug informatique. Ces élections-là tournent à la crise politique. Le président de la petite région de Thuringe en Allemagne y a été élu en début de semaine grâce aux voix de la droite et de l'extrême droite. Impardonnable, disait hier la chancelière Angela Merkel. Le nouvel élu a donc démissionné et il a dissous l'assemblée régionale. Mais le tabou est déjà brisé outre-Rhin. Cela ranime notamment le souvenir des années 30 et cela choque l'opinion, Ludovic Piétenu.
Chaque Allemand a en mémoire que c'est dans cette région de Thuringe, le 2 février 1930, il y a 90 ans, quasi jour pour jour, que le parti nazi d'Adolf Hitler participait pour la première fois à une coalition gouvernementale. Un parallèle historique qui revient très souvent dans la bouche des Allemands.
J'ai trouvé ça tellement insidieux, cette élection, avec le soutien de l'AfD, qu'on ne peut pas ne pas penser au début du national-socialisme.
Certains électeurs ne sont pas loin de penser qu'ils ont été trahis comme ces deux femmes.
Je pense que tout ça n'aurait jamais dû arriver. Ça laisse des traces, cela ne se fait pas. Cela n'a rien à voir avec le traditionnel jeu politique. Ce qui s'est passé n'est simplement pas correct.
Je pense que c'est mauvais qu'il y ait de telles intrigues pour accéder au pouvoir. Ça nous paraît maintenant tellement évident qu'on sait regarder qui est derrière tout cela.
Un grand parti comme la CDU d'Angela Merkel, déjà en perte de vitesse dans le pays, va peut-être y laisser encore quelques plumes après cet épisode. La grande coalition, elle aussi à Berlin, pourrait bien en pâtir, car les sociodémocrates veulent s'assurer que leur partenaire de la CDU ne renouvellera pas une telle alliance avec l'extrême droite. Ces 48 prochaines heures, plusieurs réunions au sommet sont prévues dans les états-majors et au sein de la coalition gouvernementale.
C'était Ludovic Piétenu depuis Berlin. N'hésitez pas à ce propos à réécouter la revue de presse internationale d'hier matin sur notre site franceculture.fr ou en podcast. Même si le président chinois Xi Jinping jure de réussir à endiguer l'épidémie, même si son homologue américain dit lui faire confiance, force est de constater que le coronavirus se répand encore. Dernier bilan, plus de 31 000 personnes infectées, 636 morts en Chine continentale. Parmi les dernières victimes figure ce matin l'un des tout premiers médecins à avoir donné l'alerte. Il s'agit du docteur Li Wanliang, 34 ans. Sa mort déclenche une vague d'émotions en Chine. Il est sur tous les réseaux, Dominique André.
Je respire difficilement. Je suis à l'unité de soins intensifs. Les derniers mots du docteur Li Wenliang au téléphone sont repris ce matin sur les réseaux sociaux chinois, accompagnés de bougies et de photos du célèbre médecin lanceur d'alerte sur son lit d'hôpital à Wuhan. Weibo, le Twitter chinois, a enregistré plus d'1,5 milliard de clics dans la nuit. Beaucoup de Chinois sont restés éveillés pour rendre hommage au médecin qui est présenté comme un héros. Un extrait du journal de la CCTV où il est accusé d'avoir propagé des rumeurs fin décembre circule.
Récemment, des hôpitaux à Wuhan ont découvert des cas de pneumonie. Certains internautes n'ont pas vérifié l'information. Ils ont envoyé et transféré ces fausses rumeurs sur Internet. Les services de sécurité ont mené l'enquête et vérifié. 8 personnes sont convoquées par la police et cette affaire est portée devant la justice. La police avertit que l'Internet n'est pas au-dessus de la loi. Il faut respecter la loi avant de s'exprimer en public.
Tu es parti, j'espère que c'est une rumeur. Tu es l'étoile qui brille en 2020. Aux commentaires déchirants s'ajoute aussi la colère d'internautes qui reprennent les mots du docteur Li. Une société saine ne devrait pas avoir qu'une seule voix. La mairie de Wuhan s'est empressée de rendre hommage au docteur Li Wenliang.
J'ajoute par ailleurs qu'au large du Japon, plus d'une soixantaine de vacanciers sont contaminés sur un bateau de croisière qui a été mis en quarantaine. Un troisième cas a aussi été détecté en Italie.
Il est 8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Emmanuel Macron tiendra aujourd'hui le traditionnel discours sur la dissuasion nucléaire.
Oui, un discours que le président aura mis du temps à prononcer, près de 3 ans après son élection. On sait déjà que l'arme de dissuasion nucléaire va perdurer en France grâce à un budget de 25 milliards d'euros d'ici à 2023. Le tout dans un monde où la dissuasion nucléaire s'enrichit de nouvelles armes et de nouveaux acteurs, Claude Guibal.
1945, Hiroshima, et depuis la peur de l'apocalypse nucléaire qui tient entre les mains de 9 pays, les États-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, la Chine, club initial auquel se sont ajoutés l'Inde et le Pakistan, Israël et la Corée du Nord. Un monde atomique en pleine mutation depuis 10 ans, un contexte marqué par l'élection de Donald Trump, les ambitions régionales de la Chine, le retour de la Russie. Le retrait américain des accords internationaux a remis en question la fiabilité de la parole américaine. Du coup, les pays qui se sentaient protégés par le parapluie nucléaire américain, tels que le Japon ou l'Arabie Saoudite, s'inquiètent. Le rapprochement avec Pyongyang a aussi prouvé au régime autoritaire qu'avoir la bombe était une forme d'assurance-vie. Dans le même temps, le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien a conduit Téhéran à relancer à plein son programme atomique. Après l'ère Obama tournée vers la dénucléarisation, les États-Unis ont modifié leur doctrine. Depuis 2017, il privilégie le développement d'armes atomiques de faible puissance, des armes tactiques qui brisent la certitude que jamais un État n'utiliserait des armes nucléaires classiques trop terrifiantes. En 2019, Washington s'est retiré d'un traité de désarmement majeur sur ses armes de portée intermédiaire, stratégie que la France, troisième puissance atomique mondiale, ne peut ignorer.
La France qui est désormais le seul pays de l'Union européenne à posséder cette arme nucléaire depuis le départ du Royaume-Uni. Nous l'évoquions hier ici même, la probable éviction d'Isabelle Koechter à la tête d'Engie, eh bien c'est acté depuis hier soir. Le mandat de la directrice générale ne sera pas renouvelé au printemps prochain. Air France, Accor Hôtel, Altran, Arkema, Renault, Rexel, Sopra Steria. Voici les 7 entreprises pointées du doigt par une étude sur la discrimination à l'embauche. Ce test avait été commandé par le gouvernement il y a 2 ans pour savoir notamment si un candidat avec un nom français avait plus ou moins de chances d'être embauché face à un candidat à un nom de consonance maghrébine. Les discriminations sont grandes et les mauvais élèves sont donc maintenant révélés. Samuel Thomas, président de la Fédération des Maisons des Potes, s'en félicite.
On va pouvoir mettre la pression sur ces entreprises pour qu'elles passe à une autre politique de recrutement. Le testing, normalement, c'est là pour révéler que quelqu'un qui croyait ne pas discriminer, ben, finalement, il discrimine. Et une fois qu'on l'a épinglé, on va lui faire travailler sur ses préjugés, lui faire prendre conscience qu'il en a et qu'ils sont absurdes. Maintenant, il y a une autre promesse qui était celle du président de la République, qui était de transmettre ceci à l'inspection du travail. Alors maintenant, on aimerait bien que finalement, l'ensemble des résultats précis de ces testings soit transmis à l'inspection du travail pour que on ne puisse pas dire qu'il y a une impunité.
Mais quelle réaction des entreprises incriminées? La plupart expriment leur profond désaccord et leur indignation face à ces résultats, face à cette étude. Air France, par exemple, testée 44 fois, mise en cause pour 7 candidatures spontanées. Sa directrice emploi, formation et diversité, Laetitia Niodo, dit sa colère.
Aujourd'hui, c'est sur la base de 7 candidatures spontanées envoyées à on ne sait pas qui dans l'entreprise, et en tout cas en dehors de nos canaux de recrutement, qu'on conclut à une présomption de discrimination dans l'entreprise. Mais la réalité d'Air France, c'est plus de 100 000 candidatures reçues et traitées chaque année par l'intermédiaire de notre site carrière sur les offres d'emploi publiées, puisque c'est chez Air France le seul canal de candidature et de recrutement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'améliorer. Au contraire, on voit là par exemple qu'on peut sans doute améliorer le traitement de nos candidatures spontanées. Simplement, on doit expliquer pourquoi en effet on se retrouve sur ce testing et expliquer en quoi ce n'est pas la réalité d'Air France.
Des propos recueillis par Claire Chaudière. Cette entreprise-là vient d'être condamnée par la justice pour travail dissimulé. L'entreprise de livraison de plats cuisinés Deliveroo est condamnée à verser 30 000 euros à l'un de ses anciens livreurs. C'est une première en France. 121 000 manifestants se sont mobilisés contre la réforme des retraites hier dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, qui en a compté 15 000 à Paris. La CGT évoque, elle, 130 000 manifestants dans la capitale et appelle déjà à une nouvelle date de mobilisation le 20 février prochain. Journée noire également dans les transports en Ile-de-France le 17 février pendant les vacances d'hiver. Et pour protester contre la façon dont le gouvernement a imposé cette réforme des retraites, une députée LREM de Charente-Maritime a annoncé hier qu'elle quittait le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. LREM a perdu 3 membres en une semaine et compte désormais 300 députés. Des défections dans le parti de la majorité à un mois et demi maintenant des élections municipales. C'est d'ailleurs aujourd'hui le dernier jour pour s'inscrire sur les listes électorales, pour ceux en tout cas qui ne le sont pas déjà. Un appel qui s'adresse surtout aux jeunes, les 18-25 ans, grands abstentionnistes habituellement aux municipales, souvent parce qu'ils ne sont pas inscrits justement, tout simplement parce qu'ils ne sont pas au courant, Lucille Ocodi.
Rallongement du délai pour s'inscrire au 7 février contre le 31 décembre auparavant, augmentation des campagnes d'information, rien n'est fait. Le questionnement des jeunes sur cette procédure subsiste. Charlotte et Mathilde sont étudiantes à l'université Paris-Dauphine dans le 16e arrondissement de Paris.
Je pense que je vais regarder sur internet, mais j'avoue que comme ça je ne saurais pas trop dire, mais... C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus et c'est un peu dommage, mais c'est comme si c'était que à ceux qui s'intéressaient au vote d'aller chercher sur internet comment on fait.
Les 18 ans sont inscrits automatiquement dans leur commune de résidence grâce au recensement de l'INSEE. Pour les autres, il ne faut pas oublier de réactualiser sa situation s'il y a eu déménagement, selon Céline Braconnier, directrice de Sciences Po Saint-Germain.
Il y a cette idée qu'on s'inscrit là où on a vocation à s'inscrire pour toujours. Et donc on reste inscrit chez ses parents et du coup on ne vote pas. Il faut changer ça. En gros, faire en sorte qu'on s'inscrive là où on réside à un endroit et là où on a envie donc de peser sur le quotidien de là où on vit.
L'inscription est pourtant relativement simple, une formalité à faire en mairie, sur internet ou par courrier. Un système trop complexe, selon Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques à l'université de Montpellier.
Moi je pense qu'il faudrait trouver des procédures où l'inscription soit automatique. Le problème c'est qu'on est un des seuls pays, une des seules démocraties à imposer une procédure d'inscription sur les listes électorales. Ça, c'est le premier constat qu'il faut faire. Dans la plupart des grandes démocraties, l'inscription est automatique.
Selon un sondage de l'INSEE réalisé en 2017, 43% des 25-29 ans étaient mal inscrits sur les listes électorales et n'ont donc pu voter aux dernières élections municipales.
Les prochaines élections municipales auront donc lieu, je vous le rappelle, les 15 et 22 mars. Le temps sera nuageux aujourd'hui sur l'ouest et sur le Languedoc. Un grand soleil brillera partout ailleurs. Il fait ce matin -1 à Strasbourg, 2 degrés à Lille, 4 à Paris, 5 à Lyon et 11 à Marseille.